Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Estelle sera de retour avec nous dès lundi. Avec moi, il y a aujourd'hui Paul Lassen, journaliste RMC, Emmanuel Doncourt, journaliste indépendante, Perico Légas, journaliste à Marianne, et Pierre-Édouard Magnan, militant associatif. Dans un instant, on va parler des enfants, de nos enfants, les mineurs, de plus en plus exposés à la pornographie. Êtes-vous inquiet pour eux, pour vos enfants? Vous nous appelez au 32-16 à 14h30. RMC s'engage pour vous, suite de notre semaine spéciale déclaration de revenus. Et puis à 14h40, comme tous les jours, les immanquables avec Paul Lassen. Paul, on parlera de quoi notamment?
Les Français qui jouent de plus en plus aux jeux d'argent et une manif qui s'est déroulée devant l'Assemblée Générale de Total.
Ouais, ça n'a pas été tout repos.
Non, c'est un peu débordé.
RMC Estelle Midi.
L'âge du jour, 10 ans. À 10 ans, près d'un quart des garçons consultent des sites pornographiques chaque mois. À 12-13 ans, près d'un tiers des filles font la même chose. Paul, le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur, c'est une vaste étude qui nous le dit.
Oui, des chiffres inquiétants révélés par une étude de médiamétrie commandée par l'ARCOM. On apprend que 2 300 000 mineurs sont exposés à des images pornographiques pendant plus de 50 minutes en moyenne chaque mois. Un chiffre en hausse de plus de 600 000 mineurs par rapport aux premières études publiées en 2017. Alors cette évolution, d'après les spécialistes, elle est favorisée par la possession de smartphones. Les trois quarts des moins de 18 ans utilisent exclusivement leur téléphone pour consulter des contenus pornographiques. Et ce sont les plus jeunes qui sont les plus touchés. 51% des garçons de 12-13 ans qui regardent des sites pornographiques chaque mois, et quand même 21% des garçons de 10-11 ans. Les filles sont moins nombreuses, mais les chiffres sont quand même inquiétants. 31% des adolescentes de 12-13 ans regardent ou ont déjà regardé du porno. Alors, le site le plus consommé par les jeunes, c'est la plateforme gratuite Pornhub. Elle est consultée par 18% des mineurs, alors que pour le reste des autres sites, c'est environ 12%. Mmh. Si les associations dénonce un vrai problème de santé publique. Pour l'exécutif aussi, ce problème est une priorité. Il y a deux semaines, un projet de loi a été présenté pour faciliter l'interdiction des sites porno aux mineurs.
Les mineurs de plus en plus exposés à la pornographie, êtes-vous inquiet pour vos enfants? Vous nous appelez au 32-16. Emmanuel Doncourt, tu as combien d'enfants? Tu peux nous rappeler?
Quatre
enfants. Quel âge?
10, 17, 17, 21.
D'accord. 10, 17. Allez, je vais me concentrer sur eux.
Ouais.
Garçons, filles?
10 garçons, 17, 17 garçons, 21 filles.
Est-ce que tu as déjà abordé le sujet avec eux?
Ouais, avec mes jumeaux. Ah ouais.
Qui ont
17 ans.
Tu
et je suis tombée de ma chaise. On avait traité le débat il y a quelques mois ici. Il y avait déjà un premier rapport qui était paru. Et moi, je m'étais dit, les miens, jamais. Et j'ai doute quand même, parce que les chiffres étaient assez affolants.
Ouais.
Et je me suis dit, bah tiens, j'ai des jumeaux, donc peut-être un sur deux. Et bah effectivement, un sur deux, et pas celui auquel je m'attendais en plus. Mais il me l'a dit très calmement. Hein, j'ai dit, mais vous avez déjà regardé des sites pornographiques? Et il y en a qui m'a dit, bah oui. Ah bon? Mais comment? Avec mes copains. Quand on est en soirée, bah 16 ans, quoi, 16, 17 ans. Et ça m'a vraiment alertée, parce que c'est celui auquel je m'attendais pas du tout. Et c'est catastrophique, ils ont un petit frère de 10 ans. Qui pour l'instant n'a pas de portable, mais qui en aura un à la rentrée en rentrant en sixième. Et on ne sait plus quoi faire, les parents. Enfin, évidemment qu'on peut bloquer certains sites, certains contenus, mais moi je suis une bille en technologie, donc je n'ai pas réussi à bloquer mes jumeaux. Comment je vais bloquer le petit? Et puis c'est absolument délirant, parce qu'on sait très bien que c'est d'une violence inouïe, ces contenus-là, que les adolescents ne peuvent pas gérer la violence de ceux qui peuvent le voir, que ça donne une image de la vie sexuelle complètement dégradante pour les femmes, complètement dégradée. D'ailleurs, ce n'est pas la vraie vie sexuelle des gens, en réalité. Il n'est jamais question d'amour, il n'est jamais question de consentement. Et quand il faut rattraper derrière, c'est un pur enfer.
Donc après, surtout, le gouvernement... T'imagines bien à 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans...
Alors le gouvernement essaye de faire pression sur les sites pour qu'ils s'assurent sûr de la vraie identité des gamins, machin. Mais cela dit, c'est très quand même a priori assez facile à contourner, comme les interdits parentaux d'ailleurs sont malgré tout assez faciles à contourner. Il y a des tutos sur YouTube ou Google, enfin ce que tu veux, qui t'expliquent comment détourner le contrôle parental. Donc on est complètement démunis et en fait on s'est rendu compte aussi que quand les parents regardent du porno, les enfants y ont plus facilement accès parce qu'ils vont choper la tablette, le téléphone du père, de la mère, et la première chose à faire si vous regardez du porno déjà, c'est d'arrêter quoi. C'est déjà d'arrêter vous, et c'est quand même un adulte sur deux.
Pierre-Edouard, évidemment, enfin oui, évidemment que c'est inquiétant. Enfin, je veux dire, on peut pas,
qui ne serait pas inquiet.
Enfin, je pense que là, pour le coup, on pourrait faire un référendum. Je pense qu'on aurait 100% de gens qui pourraient être inquiétants.
La question qu'on a posée justement, c'est celle-là. Et c'est intéressant le témoignage que tu viens de donner, Emmanuel. La question qu'on pose, il y a une subtilité, c'est êtes-vous inquiet pour vos enfants? Parce qu'il y a un certain vu de ces chiffres, je suis convaincu, Emmanuel, c'est ton cas. Et moi, je n'ose même pas. J'ai une fille de 15 ans. Je n'ose même pas imaginer. Mais je suis convaincu qu'une immense majorité des parents se disent comme tu l'as fait, Emmanuel, comme se disent bon, oui, mais moi, je connais mon fils,
pas moi, chez les autres, mais pas
je
moi.
Je connais mon fils, je connais ma fille. Or, à la vue de ces chiffres, je suis convaincu que tous ceux qui nous regardent, nous écoutent, s'ils sont parents là aujourd'hui, on est une immense majorité.
Bien sûr.
On serait une immense majorité à tomber de nos chaises si vraiment on fouillait ce qui se passe dans l'activité numérique de nos enfants.
En fait, il faut ouvrir le dialogue, il faut surtout en parler. Quoi.
Moi, je suis forcément inquiet. Alors, vu si j'en suis d'études, moi, j'ai une fille et elle n'a que 10 ans. Donc, j'ai encore
une moyenne, 10 ans.
C'est une fille. Les filles, la moyenne est plus élevée. Donc,
C'est dans 2 ans.
Je fais une petite.
C'est dans 2 ans.
Je moyenne. Pense qu'aujourd'hui, elle va sur Internet. On a en tout cas ce rapport parce que, alors, je pense pas qu'elle ait vu. Enfin, on l'a pas dit, mais elle lui est arrivée de tomber ou sur des images un peu violentes, etc. Et le réflexe, d'abord, quand elle est sur sa tablette, en général, on a ou sa mère ou moi un œil pas très loin. Ouais. Et elle est venue effectivement nous en parler. Effectivement, il faut évidemment d'abord qu'il y ait un travail qui soit fait, sur les fabricants et sur les diffuseurs. Je note quand même que sur Facebook, cette plateforme a été capable de repérer et d'enlever une reproduction de la peinture à l'origine du monde, ce qui en termes de pornographie est quand même discutable. Par contre, on aurait des difficultés à empêcher Pornhub et autres joyeux sites de faire des choses. J'ai du mal à croire que... Alors moi, je ne sais pas, mais techniquement, il y a forcément des moyens. Et surtout derrière, il y a une vraie question d'éducation à la sexualité. Et là-dessus, je pense que ça pêche, aussi bien d'ailleurs du côté des familles, c'est compliqué avec ses propres enfants, que du côté de l'éducation nationale. Parce que on n'arrivera jamais, je le crains, à supprimer toute activité porno et tout accès au porno.
On n'y arrivera pas.
Donc, le vrai sujet, c'est comment on fait que des enfants, et surtout même des jeunes ados, effectivement, comme tu dis, ne pensent pas que c'est ça la sexualité, ne pensent pas que c'est ça une sexualité réussie. Et puis aussi de rappeler que les soi-disant films porno qui seraient naturels, c'est pas une soirée entre potes. C'est de l'abattage, c'est de l'exploitation, et évidemment, avant tout, de l'exploitation du corps de la femme. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut évidemment travailler.
Tu as raison de le dire.
Perico. C'est une vieille histoire. Tous les êtres humains sont portés, je ne vais pas généraliser, mais les images interdites, la sexualité, le sexe, la libido, bon, ça a toujours fasciné, ça crée une attirance. Il y a eu différentes étapes dans l'histoire. On a connu majoritairement la période où la pornographie était certains films dans certains cinémas, dans certaines conditions réservées à une certaine population, des publications vendues sous le manteau par les kiosquiers, accès difficile, et le Minitel rose à un moment donné. Ah oui. Aujourd'hui, on est dans une généralisation mondiale, c'est-à-dire que ces images sont devenues d'une banalité totale et tout le monde peut y accéder.
Accessible.
Donc, un moment donné, sans tomber dans la répression de la République populaire de Chine, on ferme, on interdit, on bloque ces sites, terminés. Je ne vois pas ce que la pornographie à ce niveau-là peut apporter de culturel, d'intellectuel, de sensoriel. Voilà, c'est pas une liberté d'expression. Et même un film classé violent, on peut toujours dire que dans la violence il y a, et on pourrait aussi les interdire, et c'est aussi grave, l'accès des jeunes. En fait, on banalise la pornographie, on banalise la violence, on a ensuite des comportements d'adolescents qui sont tragiques. Là, je ne vois pas d'autre solution, et qu'on me dise pas que ce n'est pas possible.
Je suis d'accord.
On ferme. D'ailleurs, puisqu'on en est arrivé là, peut-être qu'on rouvrira ensuite en ayant créé les modalités d'un accès sécurisé pour une population qui est droit à l'aide, mais pour les enfants. Mais là, puisqu'aujourd'hui, ça touche une jeunesse fragile, victime, avec des conséquences qui peuvent être tragiques, et bien sûr qu'il faudra aussi faire de l'éducation pour les prévenir, mais ça c'est le vaccin. Mais aujourd'hui, on ferme. Comment est-ce qu'on peut être encore aux deux points de débattre, dire qu'est-ce qu'on peut faire? On ferme les écoutilles, on ferme le verrou. Terminé, en France, il n'y a plus de ces sites. Et s'il y en a, c'est puni par la loi, très sévèrement.
Les mineurs de plus en plus exposés à la pornographie, êtes-vous inquiet pour vos enfants? Vous nous appelez au 3216. Xavier est avec nous. Bonjour Xavier.
Bonjour Rémi, bonjour à toute l'équipe.
Merci
bonjour.
De nous rejoindre dans Estelle Midi. On est en Haute-Garonne, à Revel, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Xavier, je peux vous demander votre âge?
Oui, j'ai 45 ans.
D'accord. Est-ce que vous êtes papa?
Non.
D'accord. Alors, donc, est-ce que vous êtes inquiet pour l'enfance de France? Pour les enfants?
Tous mes amis ont des enfants, bien évidemment.
Ouais.
Non, je ne suis pas inquiet. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été confronté à la pornographie à l'âge de 11 ans. Et de façon très régulière. Vu que j'ai 45 ans...
Je peux me permettre de vous demander dans quel contexte?
Oui, ben parce que moi je suis de la génération où la VHS est arrivée, les magnétoscopes, ouais. Et l'explosion du monde de la VHS. Et donc on avait accès à la pornographie de façon très facile. Et parce que j'avais des cousins plus âgés, des copains plus âgés. Et c'est à l'arrivée au collège, en fait, où ben, c'est là où avec les copains de classe, qui même avaient des grands frères et autres, où on avait accès à la pornographie régulièrement. Puis après... Il y avait aussi les magazines, mais moi, ce qui me pose problème, c'est plus sur le contenu, parce que en fait, à l'époque, la pornographie que j'ai vue quand j'étais adolescent, c'était entre guillemets des monsieur et madame tout le monde, physiquement parlant, qui n'étaient pas des athlètes surbodybuildés avec un avantage physique incroyable. C'était aussi un petit peu, on va dire, cocasse les situations. C'était le châtelain, enfin la châtelaine avec ouais. Le grand poignet, la secrétaire du dentiste qui était un petit peu légère. Mais c'est surtout le contenu aujourd'hui où il y a beaucoup d'actes violents qui peut être problématique.
On en parlait ce matin en préparant cette émission et certains de mes collègues étaient étonnés parce que c'est pas la première fois qu'on traite ce sujet, donc j'ai déjà eu l'occasion de lire beaucoup d'articles et sur le sujet et il y a elles étaient étonnées parce que c'était deux filles pour le coup. Quand je leur ai dit le type de catégorie qui existait sur les sites pornographiques, et je ne parle pas de sites pornographiques confidentiels, ce sont les plus connus. On parlait tu parlais de Pornhub tout à l'heure, etc. X Hamster, etc. Des sites extrêmement connus. Mais il y a des catégories viol. Il y a des catégories zoophilie.
Absolument. Non mais
il n'y a aucun tabou.
Et là,
on parle d'enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sont directement confrontés à ce type de situation.
Je suis entièrement d'accord. C'est là où est le problème. Pour moi, c'est le contenu. C'est l'accessibilité au contenu.
Problème.
Alors, je sais que il existe un système de reconnaissance faciale qui empêche d'avoir accès à des contenus numériques. Je sais que ça se fait pour les jeux vidéo, notamment, je ne sais plus si c'est en Corée, j'avais lu ça une fois dans une étude.
Il y a des moyens, c'est ce que disait Perico tout à l'heure, il y a certainement des moyens de contrôler. Ouais.
Avec une reconnaissance faciale, vous êtes un adulte, vous avez accès, puisque vous êtes quand même censé faire la part des choses, même si je trouve effectivement que regarder des sites sur des simulations de viol ou autre. Il y avait un film qui était bien, il y a quelques années, qui était sorti sur les Smurf Movies avec Nicolas Cage, qui parlait de ça aussi, où c'est déjà ça a interrogé un peu. Mais je pense que vraiment, tout autre contrôle va être impossible. Emmanuel l'a dit, vous faites le contrôle parental, vous allez voir un tuto pour l'enlever. Vous essayez de pas donner de smartphone. De toute façon, dans la cour de récré, un copain pourra le montrer.
Merci Xavier d'avoir été avec nous. Xavier qui nous appelait depuis Revel en Haute-Garonne. Tout de suite dans Estelle Midi, nous rejoint Nikita Bellucci. Bonjour Nikita Bellucci.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous, maman, productrice, actrice. Nikita Bellucci, vous avez pris connaissance peut-être de ces chiffres, de ce rapport. Le phénomène ne cesse de s'aggraver.
Non.
De plus en plus de mineurs sont confrontés chaque année directement à la pornographie. Est-ce que ça vous étonne?
Mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que ça étonne tout le monde. En fait, beaucoup d'études disent, oui, les enfants à partir de 12 ans. Mais non, mais il faut arrêter. À partir du moment où il y a un enfant qui a un téléphone dans les mains, il tombera sur ce genre de contenu. C'est simple. Donc déjà, de base, en tant que parent, quand on donne un téléphone portable à son enfant, on est censé le protéger. Comme on apprend à notre enfant à traverser la route, là, on apprend à notre enfant... À se servir d'un téléphone portable, à se servir d'internet. Maintenant, donner un téléphone portable à un enfant de 6 ans, 5 ans, 8 ans, enfin c'est aberrant, mais c'est encore un autre débat.
C'est pas seulement un autre débat, hein. Vous avez raison.
50% des primaires.
Ah ouais.
Il peut être bridé, hein, mais vous avez raison.
Non, mais elle a raison.
Non, mais c'est je vois pas qu'est-ce que ça va prendre à un enfant. On sait très bien les répercussions que ça a sur un enfant d'avoir un téléphone portable à 24.
Bref. Ah ouais. Nikita, il y a de ça, je sais plus, c'était à 2-3 ans. Vous aviez poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. C'était en 2018. D'accord. Ouais. Parce qu'à l'époque, sur votre voilà, vous avez travaillé dans le monde de la pornographie et à l'époque, vous sur votre site, il y avait des gamins.
Non, qui... en fait, c'était sur mes réseaux sociaux où je recevais des messages. Ouais,
voilà, sur les réseaux sociaux, d'accord. Des gamins qui venaient vous aborder de manière très crue, ouais. Qui vous disaient bah moi j'ai 13 ans, est-ce que ça de je vais être poli, ouais. Enfin, être le plus soft possible, mais des gamins qui vous disaient bah moi j'ai 13 ans, est-ce que t'aimerais bien coucher avec moi?
C'est ça.
Et à l'époque, vous aviez poussé un coup de gueule.
C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, donc du coup, déjà une actrice porno qui se permet d'alerter les parents, ça ne passe pas. Ouais. Mais j'avais reçu du coup des menaces de mort, de viol, etc. Parce qu'en fait, les gens n'acceptaient pas, ne voulaient pas voir. Tout le monde.
C'était votre faute à vous parce que vous étiez actrice porno.
C'est ça.
C'était pas leur faute à eux qui avaient acheté un portable.
Non, et en fait, j'essayais d'alerter les parents. Je faisais des captures d'écran des messages des gamins que j'arrivais à retrouver les parents. Et j'envoyais les messages aux parents en disant « Faites gaffe à votre enfant ». Et les parents me répondaient « Mais non, mais c'est pas possible, mon enfant ne ferait jamais ça ». Les parents sont dans le déni. Ils ne pensent pas une seule seconde que leur enfant a une curiosité parce qu'en fait, ils vont essayer de trouver des réponses sur Internet parce que personne ne répond à leurs questions à ces enfants-là. Donc il y a un moment, voilà, faut, c'est à nous de prendre nos responsabilités une fois de plus. Par contre, je veux juste dire un point qui me semble essentiel, c'est que tout le monde parle des sites porno en libre accès, c'est illégal et ils doivent être punis parce qu'il y a des lois en France qui ne sont absolument pas respectées. Donc à un moment donné, ça fait des années qu'on en parle, c'est pas appliqué. Ouais. Mais pendant que tout le monde parle, on a des trains de retard parce que par exemple sur Twitter. C'est un site porno, Twitter. Twitter, on trouve du porno, mais du porno, de la zoophilie, de la pédopornographie.
Je vois Pierre-Édouard Magnon qui est à côté de moi, qui fait des grands yeux.
Mais je savais pas non plus, moi.
Tape certains mots-clés, tu sais, dans onglet de recherche sur Twitter, en lien avec la pornographie, tu vas halluciner.
Nikita, comment vous expliquez ça?
Nikita Boleucci, allez-y.
J'ai tout un dossier là-dessus où j'ai fait toutes les captures d'écran que j'hésite à sortir parce que si je sors ça va faire une bombe. Ouais. Mais du coup, j'interpelle Jean-Noël
Barrot. Et là, zéro contrôle.
Quant à la régulation du contenu Twitter, qu'est-ce que fait Jean-Noël Barrot? Qu'est-ce qu'il compte faire en fait là-dessus? Parce que tout le monde parle des sites porno, mais les mineurs maintenant pour accéder au porno vont sur Twitter, ils ne vont plus sur Pornhub, ils vont sur Twitter. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
Nikita Bellucci, comment vous expliquez ce laxisme? Puisque les mesures sont assez simples à prendre, même si elles supposent un engagement politique, comment vous expliquez qu'on en soit arrivé là, que les pouvoirs publics aient toléré une telle dégradation de la situation?
Je n'explique même pas, tout comme je n'explique même pas que l'éducation nationale préconise 3 heures de cours d'éducation sexuelle pour les enfants. Enfin, il y a un moment, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on apprend en 3 heures? Où se trouve le clitoris? Comment on fait les bébés? Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez.
Et encore, il y a des obligations légales, comme le dit Nikita Bellucci, et on sait qu'elles ne sont même pas respectées par les établissements scolaires, souvent par manque de moyens ou par frilosité.
Sincèrement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des idéologues, je mets les pieds dans le plat, qui pensent que ce n'est pas grave, que ça fait partie de la réalité de notre monde d'aujourd'hui? Je parle d'une espèce d'une idéologie sociale un peu gauchiste, vous voyez, un peu libertaire, qui dirait qu'il faut restreindre. Non, mais je pose la question, je n'ai pas la moindre idée. Mais il y a bien des gens qui, si on en est là, ont considéré que c'était bien qu'on en arrive là. Ce n'est pas possible. Ça.
Oui, c'est ça, il faut vivre avec son temps, sauf qu'à un moment donné, vivre avec son temps, c'est très bien, sauf que là, on parle d'enfants, ce sont des enfants, et en tant qu'adultes, on doit les protéger. On va pas autoriser, il faut vivre avec son temps. Bon, on va autoriser maintenant les mineurs à fumer des pétards. Enfin, c'est pas possible, il y a des textes de loi qui ne sont pas appliqués. Et pourquoi on ne les protège pas, ces enfants-là? Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une hypersexualisation de tout. Il ne faut pas s'étonner que maintenant...
Qu'il y ait une violence à l'égard des femmes qui ne diminue pas.
Oui, c'est ça. Enfin, ils sont abreuvés de ces images-là parce que personne ne répond à leurs questions. Donc quand on construit sa sexualité avec des images porno,
on
n'arrive même pas
à... On ne la construit pas, hein, on la détruit.
Voilà, mais parce que personne ne décrypte. Ils ne sont pas en capacité de le faire. Parce que ce sont des enfants, une fois de plus. Et donc, nous, en tant qu'adultes, on est censé les protéger.
Merci beaucoup.
Donc, j'interpelle Jean-Noël Barrot quant à la régulation du contenu.
Jean-Noël Barrot, qui est
J'interpelle
le ministre en charge de la transition numérique.
Oui. C'est ça. quant à la régulation. Oui.
Il va falloir agir.
Attends, on n'a pas entendu la
sanction. Vous aviez lancé un hashtag, d'ailleurs, protégez vos gosses. Vous aviez lancé un hashtag protégez vos gosses, hein, Nikita Bellucci.
C'est ça,
merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nikita Bellucci, maman, productrice et actrice. On vous pose la question 32-16. Les mineurs de plus en plus exposés à la pornographie, êtes-vous inquiet pour vos enfants? Et Yannick est avec nous. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Merci de nous joindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est dans le Val d'Oise, à Attainville, c'est ça?
C'est ça.
Vous avez quel âge, Yannick?
44 ans.
D'accord, papa?
Oui, deux grands garçons.
Qui ont quel âge?
19 ans pour le plus grand et 13 ans pour le petit.
Et dernièrement, vous avez eu une mauvaise surprise avec celui de 13 ans.
C'est ça. Comme tout parent, on pensait qu'on avait un enfant presque idéal. Hein. Alors peut-être pas parfait, mais enfin bon. Mmh. Et puis suite à un souci à l'école, on a décidé de mettre le nez dans le téléphone. Et c'est ce que disait un des intervenants tout à l'heure.
C'est moi, Emmanuel.
Là, c'est la surprise, quoi. Ouais. Là, on tombe de très très haut et on se dit non, c'est pas possible.
Vous êtes tombé sur quoi, Yannick?
Sur du contenu, pornographique. Alors bon, sur le coup, on se dit ok, comme tout le monde, à un certain âge, peut-être qu'on commence à. Ouais, mais en fait, quand on est tombé sur l'historique complet et qu'on a regardé la quantité et la durée quotidienne de consommation, c'est ça qui était effrayant.
C'est-à-dire, c'était quoi la durée quotidienne?
C'était en moyenne entre 1 heure et 2 heures par jour, sachant qu'il est scolarisé.
À 13 ans.
À 13 ans, il est scolarisé.
C'était des contenus violents, Yannick? Il y en avait? Tu te sens choqué?
Non, pas de violence, mais
okay. Je pose la question parce que c'est la jungle.
En plus, bien sûr.
Mais ce qui était d'autant plus effrayant, c'est qu'en redétaillant l'historique, parce qu'on a quand même, quand même à avoir des heures, etc., il y a des fois, il était assis à côté de nous dans le canapé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de frontières. On était avec tranquillement en famille, assis en train de regarder un film, et lui, il avait son téléphone dans la main, et en fait, c'est ce qu'il avait sous les yeux. Je me serais déplacé de 30 cm, je tombais dessus. Il a
Qu'est-ce que vous lui avez dit, Yannick?
C'est ce que je disais au standard. La première chose qu'on a fait, c'est tout couper. Dans l'urgence, tout couper, accès à Internet, etc. Okay. On s'est posé, on a réfléchi. Après, nous, on a ouvert la discussion. Donc, s'il y avait des questions, des besoins, des envies, des peurs, enfin, peu importe. On a essayé d'ouvrir un maximum pour pouvoir au moins établir un dialogue et avoir des réponses. Et ce qui est en fait encore plus effrayant, c'est qu'on a remis... on a remis la connexion Internet pour pouvoir accès à certaines choses, avec un contrôle parental quand même où j'avais bloqué certains sites, et il a réussi à le contourner. Quatre jours après, il y avait encore dans l'historique du contenu comme ça.
Donc il est addict, si je comprends bien.
C'est ce que j'allais dire, parce que moi je suis papa aussi. Vous vous êtes posé la question de savoir s'il n'y avait pas un problème, à ce niveau-là, il n'y a pas un problème d'addiction là?
Nous, c'est clairement ce qu'on s'est dit tout de suite, il y a bien là le problème.
Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous posez la question?
On s'en est rendu compte, mais c'est là qu'on a compris que c'était pas juste un petit coup de jeune entre copains qui avait maté un film pour commencer. C'est qu'on était déjà sur un truc qui était complètement installé.
Vous êtes allé voir le médecin ou pas? Vous avez parlé à un médecin?
On a tout de suite réagi et on a pris des mesures et un suivi. Okay. Parce qu'on lui a expliqué qu'effectivement, autant une fois, deux fois, on aurait rigolé, on aurait peut-être rien dit. Autant là, que ce soit une fois par semaine ou quotidiennement, c'est gérable.
Mais je pense que Yannick, vous êtes tombé dessus par hasard. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont dans le même état que votre fils.
Et dont
les parents n'en ont absolument pas conscience à l'heure actuelle. Merci beaucoup de votre témoignage. Yannick, qui était avec nous depuis le Val d'Oise, on vous a posé la question. Pornographie, êtes-vous inquiet pour vos enfants? La réponse.
Eh bien, ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux, pour 70% d'entre eux, ils sont inquiets. Par la consommation excessive de porno.
Personne. Je ne suis pas exemple de reproche, mais pour les 30% qui ne sont pas inquiets, moi je leur conseille juste, ils font ce qu'ils veulent, s'il y a des parents parmi eux, de jeter un petit coup d'œil sur le portable de leurs enfants ce week-end. Et on peut en reparler lundi, si vous voulez. Dans un instant, RMC s'engage pour vous. C'est la suite de notre semaine spéciale déclaration de revenus. On va parler des crédits auxquels vous avez peut-être droit. Je pense que ça peut vous intéresser. On en parle dans un instant dans RMC, dans Estelle Midi, pardon, sur RMC. Et RMC Story, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story. Un crédit d'impôt, est-ce que ça vous intéresse? Eh bien,
oui.
Vous avez peut-être droit.
Moi.
RMC. Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
On clôture notre semaine spéciale RMC s'engage pour vous. Votre déclaration de revenus. Johanna Chabas est avec nous. Salut Johanna.
Salut.
Et aujourd'hui, donc, on parle de la déclaration de revenus pour les non-imposables et de crédit d'impôt.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a plus d'un foyer sur deux qui ne paye pas d'impôt en France. Donc, tout ça peut nous écouter, parce que ce matin on va répondre à une question un peu particulière. Elle nous est posée par François. Elle est particulière parce que c'est pas pour lui qu'il nous a contacté, c'est pour son ami non imposable et un peu trop timide pour nous interroger.
Bonjour, j'appelle de la part d'un ami non imposable qui se demande s'il peut récupérer quelque chose en cas de crédit d'impôt ou de don aux bonnes œuvres, enfin tous ces machins-là. Moi, je n'ai pas su quoi lui répondre. Est-ce que vous pouvez me le faire ? Merci beaucoup.
Et donc, pour lui répondre à François et à son ami, il faut distinguer la réduction d'impôt du crédit d'impôt. Ah. La réduction d'impôt, comme le don aux associations, par définition, elle réduit ce que vous devez aux impôts.
Donc, si on n'en paie pas...
Ben voilà, vous avez tout compris. Évidemment, on ne peut pas en profiter si on est non imposable. Et donc, on ne peut pas être non plus remboursé. En revanche... Le crédit d'impôt peut bénéficier à tout le monde. Si vous êtes non imposable, la totalité du crédit d'impôt vous est versée par la Direction Générale des Finances. Elle fera un virement sur votre RIB ou alors par chèque, mais bon, ça prend un tout petit peu plus de temps, par chèque. Par contre, les sommes de moins de 8 euros ne sont pas remboursées. Alors pourquoi 8 ? C'est parce que... Alors l'État considère que c'est une somme trop petite. Et en fait, c'est un peu en symétrie. Normalement, quand une somme est trop petite, elle ne va pas non plus vous la demander.
D'accord.
Donc du coup, elle ne va pas vous la rendre non plus. Bon. Et donc, parmi ces crédits d'impôt, il y a celui de l'emploi à domicile, les frais de garde d'enfants ou encore la cotisation syndicale. Si l'ami de François est éligible, bah, il pourra en profiter.
D'accord. Et la déclaration de revenus a d'autres conséquences très concrètes pour les non-imposables.
Oui, elle est automatiquement transmise à la CAF qui s'en sert pour recalculer vos droits. La CAF actualise ainsi le montant de vos aides chaque année. Donc ça peut vous permettre de toucher notamment le RSA, les allocations familiales ou encore l'aide au logement. En plus, lorsque vous aurez déclaré vos revenus, vous recevrez un avis de situation. Et donc celui-là, il peut vous être demandé si vous faites une demande de HLM, par exemple. Donc, vous avez compris, c'est très très important
de remplir correctement sa déclaration de revenus, même si on se dit, de toute façon, voilà, j'ai pas gagné beaucoup, je serai pas imposable, mais malgré tout, faut pas négliger ça.
Voilà, parce qu'on peut se dire, je suis non imposable, donc évidemment, la punition qu'on va dire qui est la majoration des impôts, donc une majoration sur zéro, ça fait toujours zéro, mais en fait, ça vous coupe de plein d'avantages. Donc, faites bien votre déclaration de revenus. Pour les départements de 1 à 19, c'était jusqu'à hier soir, donc c'est un peu trop tard. Ouais. Mais allez-y, vous avez encore un peu le temps pour vous rattraper. Pour les autres, ne tardez pas trop parce qu'il vous reste encore une à deux semaines selon votre département.
Merci beaucoup Johanna pour tous ces éclaircissements. Toute cette semaine consacrée aux déclarations de revenus, c'était pas forcément évident de travailler sur le même thème. Et puis c'est très complexe. Hein. L'administration française et notamment l'administration fiscale. Je crois que plus d'un parmi dans l'équipe des mots de tête.
Ne nous parlez plus d'impôts pendant au moins quelques jours. Si
À partir de la semaine prochaine, on parle de tous nos sujets. Hein, si vous avez un problème avec l'administration, mais pas seulement, avec l'école, par exemple, avec un voisin, avec une entreprise privée, on peut vous contacter. L'adresse, Johanna.
rmcpourvous@rmc.fr.
Parfait. Merci beaucoup, Johanna. Dans un instant, les immanquables de Paul. Paul, on va parler de quoi, notamment ?
Le temps d'attente des VTC qui va devenir payant. Et puis, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Je sais que ma femme va être malheureuse.
Oui, la mienne aussi.
Bah bon, on en parle dans un instant.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Tout de suite, les immanquables de Paul Lassen.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Paul, on commence avec la manif du jour.
Oui, celle des militants écologistes à l'Assemblée Générale du groupe Total. Ce matin, une centaine de militants pour la défense du climat ont manifesté pour dénoncer un projet du groupe pétrolier en Ouganda au son de slogans comme « Total détruit, les banques finances, on résiste » ou encore « Écoutez les scientifiques, plus un seul projet fossile ». Alors d'après les journalistes présents sur place, des grenades lacrymogènes ont été lancées et placées au milieu des militants et les forces de l'ordre ont effectué des charges contre les manifestants.
Pierre-Edouard.
D'abord, il n'y a rien de bien étonnant. Total est effectivement un groupe qui mérite, d'être un peu bousculé ou spillé. Et moi, je ne suis pas mécontent de quel genre d'action. Après, je vais être très rationnel. On ne peut pas reprocher à Total d'aller forer du pétrole. Enfin, je veux dire, il y a un moment, évidemment, que tant que Total... Alors, quand Total essaye de nous expliquer qu'ils font de l'écologie, la réduction de carbone, on rigole. C'est un groupe d'extraction pétrolière. Donc, tant qu'il y aura du pétrole, il y aura de la pollution et Total fera son travail. Après, évidemment que le commerce du pétrole n'a jamais été un commerce propre et pas que du point de vue écologique. On sait ce qui se passe en Afrique, on sait ce qui se passe. On connaît Total en Birmanie. Évidemment que c'est un commerce qui génère beaucoup d'argent, qui est particulièrement douteux et louche. Hein. On a connu l'affaire Elf. Total, c'est forcément guère mieux sur le fond. Et évidemment, c'est un commerce polluant. Donc après, je pense qu'il est important que des activistes, des militants continuent de maintenir la pression et continuent de rappeler qu'il n'est pas forcément normal que certaines entreprises fonctionnent comme elles fonctionnent. Au demeurant, tant qu'il y aura des moteurs thermiques et des supertankers et les 7 sœurs aux États-Unis, évidemment que Total continuera de fonctionner comme il fonctionne et qu'on peut pas attendre. Total ne changera pas. Peut-être qu'un jour Total n'existera plus, mais Total ne changera jamais.
Alors tu sais qu'il n'y a pas que des activistes et des militants qui étaient là. Il y a aussi Scientist Rebellion qui sont des scientifiques. Qui font des études très sérieuses, des articles que personne ne lit. Et ils en ont tellement marre d'alerter depuis des années des articles que personne ne lit que là, ils se disent, faut passer, on nous entend pas, c'est dramatique ce qui se passe. Et donc, même eux, ils y vont. C'est quand même que la planète brûle, tu vois.
Leurs articles, on n'en parle pas, ça, on en parle.
Voilà, ouais. Ça, on en parle. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a eu des journalistes
qui ont
été molestés. Il y a une caméra woman qui a été projetée à terre il y a quelques minutes. Ils ont du mal à faire le tri, c'est le chaos, j'ai l'impression.
Perico.
Alors, bon, ce n'est pas demain que Total se lancera dans la production de ruches avec les abeilles, ça je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est une institution, c'est plus qu'un groupe, c'est une institution qui participe de la gloire économique de la France. Pour autant, on connaît les dérives de ce groupe. Et je pense qu'il y a un problème de fiscalité, on en parlait tout à l'heure justement. Il y a un problème d'environnement. Là où je vois que ça touche au cœur de l'intérêt français, on a vu des manifestations de plusieurs mois avec la réforme des retraites, quelquefois des réactions fermes des forces de l'ordre. Vous avez vu la violence, on les évacue manimés, mais moi j'ai pas vu ça.
C'était particulièrement ferme, dirons-nous.
C'est donc bien la preuve que Total est un bien précieux pour le gouvernement et qu'il faut pas porter atteinte à l'intégrité de Total. Ça révèle beaucoup, beaucoup de choses. On peut en déduire ce qu'on veut ensuite, je ne fais pas de raccourci maladroit, mais je constate quand même que là on est en train de toucher à des enjeux sérieux. Donc ça veut dire que Total est, comme la BNP, un des éléments du pouvoir dans cette République.
Le record du jour, Paul.
Oui, c'est le chiffre d'affaires record pour les jeux d'argent en France. En 2022, 12,9 milliards d'euros, soit une hausse de 20% sur un an. Si la Française des Jeux et le PMU représentent toujours plus de la moitié des revenus du secteur, ce sont les casinos qui tirent leur épingle du jeu cette année. Leur chiffre d'affaires a augmenté de 130% en un an. Une activité qui s'explique, d'après l'Autorité nationale des jeux, par la réouverture totale des casinos fermés pendant près de 2 ans à cause de la crise Covid.
C'est une bonne nouvelle ou il faut s'en inquiéter?
Ça signifie surtout que les très riches sont encore plus riches, parce que les gens qui vont jouer au casino, c'est vraiment de l'argent, des gens qui ont beaucoup d'argent. Pas que.
Forcément.
Il y a des gens qui se ruinent. Mais enfin, la tendance générale, c'est de dire qu'il y a des masses de fric disponibles pour les jeux et que les gens qui étaient habitués à jouer au casino ont eu des revenus supplémentaires. Il y a peut-être aussi des gens qui vont tenter fortune parce que
il y en a beaucoup, tu sais, dans les casinos. Il y en a beaucoup dans un casino. Et puis il y a casino au casino, hein. Qui reçoivent des clients privés.
Je fais allusion.
T'en as d'autres qui font fortune au casino, c'est pas James Bond qui fait un poker, hein.
C'est
pas les mamies qui vont en machine à sous.
Je fais allusion à l'ampleur de certaines mises qui existent depuis quelques temps, qu'on voyait pas autrefois.
Oui. Et rappelez-vous ce que disait le père, Partouche, qui est un de grandes familles de casinos, il disait le seul moyen de gagner de l'argent avec un casino, c'est d'en acheter.
Ah oui, d'accord. Mais on sait que c'est beaucoup de personnes qui n'ont justement pas d'argent, qui jouent au jeu d'argent. Il n'y a pas que les casinos. Il y a tout ce qu'on achète, le PMU, disait Paul. Ah bah oui, c'est inquiétant, mais ça signe une époque où les gens n'ont plus d'argent. Donc ça fait rêver de toucher le pactole et que à peu près personne ne touche. Ça fait rêver et c'est le hamster dans sa roue. Quoi.
Tant que tout le monde pense qu'il pourra un jour devenir très riche, ça aide le système inégalitaire dans lequel on vit à se maintenir. Et alors, on peut rêver de devenir un grand comédien, on peut rêver de devenir un patron, on peut rêver d'inventer la start-up du siècle, on peut aussi rêver de gagner au jeu. Et ça contribue à faire tenir un système. Après, évidemment, l'inflation, le manque d'argent, une désespérance quand même assez généralisée. Et donc, du coup, on essaye d'acheter du rêve à pas cher parce qu'un ticket de jeu à gratter, c'est pas cher. Donc, on achète du rêve à pas cher en se disant, j'ai peut-être gagné. Et puis, si je gagne, même si je gagne, sans parler d'énormes gros lots de l'euro million, mais si je gagne 10 000, 5 000 ou même 20 000 ou 30 000 ou 50 000, ça va un peu changer le quotidien. Je vais pouvoir acheter mon électroménager, je vais peut-être pouvoir changer de voiture, on en parlait tout à l'heure.
Faut quand même dire aux gens qu'ils ont plus de chances d'aller sur la Lune. une un jour que de gagner au loto. Au loto,
bien sûr. Sait, mais alors là, le loto, on est autre chose. On est, quand tu vois l'euro million, on peut être à 100 ou 150 millions. Là, on est dans le stratosphérique absolu. Mais quand on les joue à gratter, je crois que ça dépasse rarement 50 000, ce qui est déjà une très belle somme, qui ne transforme pas quelqu'un en homme riche ou en femme riche. Par contre, ça peut changer le quotidien ou permettre de remettre les compteurs à zéro.
La proposition du jour, Paul.
Celle déposée aujourd'hui par les députés écologistes d'instaurer un congé menstruel pour les femmes atteintes de règles incapacitantes. Un congé qui serait basé sur un avis médical avec une consultation annuelle obligatoire. Mais si elle est défendue par les associations féministes et une majorité des députés de la gauche, elle est bien moins, elle est moins bien accueillie par les organisations patronales qui, elles, craignent une possible désorganisation et des abus.
Bah, Emmanuel, est-ce qu'il faut craindre ces abus?
Une désorganisation. Ah bah oui, si la loi n'est pas respectée. Je rappelle quand même que les règles douloureuses, ça n'a peut-être pas beaucoup vous parler sur ce plateau, mais c'est une femme sur deux. Et l'endométriose, c'est une femme sur dix.
Moi j'ai des filles.
T'as des règles douloureuses.
Non mais
t'es concerné par tes filles. Mais c'est pas quelque chose que vous expérimentez dans votre corps. Donc voilà.
Moi j'ai déjà été confronté à ça par le biais de mes filles.
De toute façon, les femmes ont toujours eu des problèmes pour arriver à l'égalité homme-femme au travail. On n'y est pas encore loin de là, donc ça fera un problème de plus. Mais il faut que ce congé menstruel existe. Bien évidemment, parce que aller travailler quand vous avez 3 jours de règles, et je sais de quoi je parle, hyper intense, c'est très très dur. Et il est bien certain que si c'était les hommes qui étaient concernés par ça, il y a belle lurette que la loi elle serait passée. Je dis quand même qu'elle existe en Corée, elle existe au Japon, en Indonésie. Il y a des entreprises comme Carrefour qui l'ont instaurée, il y a des villes comme Saint-Ouen qui l'ont instaurée, ça marche très très bien. C'est juste aux entreprises de se mettre au niveau des femmes, pour une fois, s'il vous plaît.
Il faudra passer par la loi parce que dans leur immense majorité, la majorité des entreprises ne le feront pas volontairement. Ouais. Certaines grandes entreprises le feront, y compris peut-être avec de la bonne volonté, aussi avec un souhait d'image parce qu'aujourd'hui ça aide aussi. Mais il faut que la loi l'impose parce que si la loi l'impose, ça va devenir une norme et on ne va plus en parler, ça va devenir une évidence. Aujourd'hui, quand on est malade, on ne va pas au travail, mais quand on a une incapacité physique temporaire. C'est pas une maladie d'avoir ces règles. Évidemment, on parle de congé maladie pour les femmes enceintes. Pareil, être enceinte, c'est pas une maladie. Mais le congé maternité n'est pas mis en doute. Il doit y avoir aussi un congé menstruel. On peut d'ailleurs faire entre guillemets le lien entre les deux puisqu'on est sur des problématiques qui sont spécifiques. Et évidemment, il faut que ça passe. Et il n'y a que la loi qui pourra l'imposer et le faire rentrer dans les mœurs et faire qu'on ne fera plus jamais de démission sur ce sujet.
En supprimant les délais de carence aussi, c'est important.
Perico, est-ce que tu comprends l'inquiétude des organisations patronales?
Oui, parce que ils craignent quoi? Ils craignent que les règles non douloureuses soient confondues. Donc, quel est le... L'Espagne vient d'y passer, la loi.
Voilà. Non, mais ils craignent qu'elle n'est pas là pendant 4 jours, le dossier va prendre du retard.
Non, j'ai discuté avec des chefs d'entreprise qui en ont parlé. C'est sur prescription médicale ou non?
Oui.
Voilà.
Une fois par an.
Oui.
Enfin, la prescription est une fois... Faudra passer chez le médecin une fois par an.
Oui, c'est-à-dire...
Oui.
Bon. Tu vas voir ton médecin, tu dis, voilà, mais docteur, je souffre de règles... particulièrement douloureuses. Maintenant qu'il y a ce congé menstruel, je voudrais pouvoir en bénéficier. Vous fassiez une attestation comme quoi j'ai le droit d'en bénéficier.
Est-ce que c'est vérifiable, médicalement parlant?
Comment tu vérifies la douleur des gens?
Donc, c'est la déclaration, c'est la bonne foi de la déclaration. Donc, le patronat a peur que des femmes qui n'ont jamais eu de problème ni de règles
prennent 3 jours de congé supplémentaire. Évidemment, c'est ça la peur.
Mais voilà, hein.
Quelle confiance.
Mais il y aura évidemment, et dans tout, et même fiscalement, il y aura du contournement. Voilà, maintenant, au nom des femmes qui ont une règle douloureuse, que quelques-unes en abusent ou en profitent, ça ne me choque pas outre mesure. Je pense pas que c'est ça qui remettra l'économie. Mais qu'un patron qui a déjà pas mal de problèmes d'organisation de son travail, c'est 10 ans plus, voilà.
C'est déjà en 36, quand on est passé aux 40 heures, l'économie française allait s'effondrer.
Le nombre de femmes qui se font embaucher sans prévenir qu'elles sont enceintes. Elles font 2 mois de boulot et ensuite elles disent...
Mais il y a des entreprises formidables, on peut dire qu'on est enceinte et qui embauchent quand même, il n'y a aucun souci.
Oui, mais d'autres qui ont dit je ne suis pas enceinte...
Il y a aussi plein de femmes de 55 ans qui ont dit qu'elles sont trop vieilles. Donc il y a un moment...
Non, mais du coup... Une douillème de femmes qui a peut-être...
Oui, et le risque, Emmanuel, c'est que certains chefs d'entreprise n'embauchent plus de femmes carrément. Voilà.
Eh ben, tant pis pour le risque, mais il faut le prendre parce que de toute façon, il faut qu'on avance socialement sur ce sujet-là. Voilà. Et sachant que les femmes, on sait, sont plus performantes au travail et travaillent plus vite.
L'annulation du jour.
Oui, celle de la tournée de la chanteuse canadienne, mais qui a un cœur français.
Ah bah oui.
Céline Dion vient d'annoncer annuler sa tournée européenne pour des raisons de santé. Une tournée européenne qui devait passer par Paris en septembre pour 6 dates. Elle s'est exprimée sur Twitter pour ses fans. « Je suis désolée de vous décevoir. Et bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas et j'ai très hâte de vous revoir. » Signé Céline.
Bon, salut ta compagne ainsi que la mienne, hein, oui, qui sont en jour de deuil quelque
jour part. De deuil, absolument.
Ah bah parce que j'adore Céline Dion.
C'est un monstre sacré.
Et puis très pour... maintenant fait, on ne sait pas que voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais on ne sait pas de ce dont elle souffre,
oui,
vraiment.
C'est peut-être grave.
Mais en tout cas, vraie pro, Céline Dion, parce que dans son métier, on le sait que c'est une vraie pro, et elle le dit.
Enfin, voilà,
je suis pas en forme. Je préfère de.
Je connais des gens qui la supportent pas, mais je crois que c'est une grande dame.
C'est bien que les artistes, parce qu'on a Stromae aussi qui a annulé il y a pas très longtemps ses concerts. Moi, je trouve ça rassurant que ces gens-là, malgré tout ce qu'ils représentent, pensent d'abord à eux, à leur santé, à leurs enfants, à leur famille. Et bah peut-être on peut attendre Céline Dion jusqu'en 2024, qu'elle se retape. Enfin, quand on aime ces gens-là, on les respecte et go quoi.
Pierre-Edouard. Non, je me faisais la réflexion, je pense que je vais survivre jusqu'en 2024.
Oui, oui, bon. Alors,
tu n'as pas de cœur, Pierre-Edouard.
Non, c'est vrai. Allez, on termine.
Pardon, Céline.
Rapidement avec l'augmentation du jour.
Oui, celle du prix des VTC, les syndicats qui représentent les indépendants et les principales plateformes comme Uber, Hitch ou Freenow, ont proposé de facturer aux consommateurs le temps d'attente avec un compteur déclenché dès que la course est commandée. Alors, c'est la deuxième étape sociale, on va dire, dans ces entreprises après la mise en place d'un tarif minimum de la course à 9 euros depuis le début de l'année. L'objectif, c'est d'augmenter la rémunération des chauffeurs à un niveau d'environ 15 euros par heure.
Toi, Perico, qui prend souvent ce type de véhicule,
ce
type de...
le cas des taxis, on facture dès que voilà, et puis je viendrai à pied. Hein.
Ah, ça nous fera du bien à tous.
On tirera un peu plus tôt, puis ça nous fera du bien à tout le monde.
Bah voilà.
Pour être réjouir des droits des travailleurs qui s'améliorent.
Je pense pas que ce soit abusif, mais il y a quand même des VTC qui se comportent pas bien.
Ah oui, je t'ai vu plus d'une fois à la sortie de cette émission.
Ils peuvent annuler la course.
Fulminer.
Ils peuvent annuler la course 2 minutes avant sous prétexte qu'ils en ont trouvé une plus chère.
C'est ça.
Par contre, ça, je veux bien, mais quand ils sont engagés à une course, ils n'en changent pas. Et s'ils en changent, ils sont pénalisés. Hein? Donnant.
Ouais. Moi, je me réjouis de l'amélioration de droits pour certains travailleurs qui sont en plus particulièrement maltraités. Et donc, je suis content qu'ils se regroupent, ils se mettent en collectif et ils obtiennent davantage de droits. Voilà, ça c'est dit. Merci à vous tous. Un petit mot, rapidement, on termine sur... on rappelle qu'on sera...
Oui, vendredi prochain
midi à Angers.
Est à Angers, midi, 15h, si vous voulez... Venir voir l'émission. L'émission sera en public. Vous envoyez un mail à l'adresse public@rmc.fr. public@rmc.fr.
Tout de suite, on va rejoindre Vincent Moscato. Tiens, je salue justement un supporter de l'OM qui est Jérôme. C'est l'un de nos auditeurs les plus fidèles. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc je le salue. Et pourquoi je parle de l'OM? Parce que Vincent Moscato, vous êtes en direct de Marseille. Il y a un anniversaire, un autre anniversaire à souhaiter aujourd'hui, Vincent.
Vincent. Voyons le Sofitel de Marseille. Comment ça va?
Salut Vincent.
Moi, avant de penser à ma santé, je pense à nos auditeurs. Je suis fatigué, mais je suis toujours là. Je sais pas comment ces stars qui se mettent en retrait. Aujourd'hui, pour les 30 ans du titre du 26 mai 93, autour de Eric Dimeco, on aura tous les invités. On aura Didier Deschamps, Jean-Jacques Kennedy, Dimeco, bien entendu, Franck Chauzé, Basile Boli, Jocelyn Angloma. Ils seront tous là, même peut-être Bernard Tapie viendra nous faire un groupe.
En tout cas, son esprit, c'est sûr, il sera là. 30e anniversaire de la victoire de Marseille. En Ligue des Champions.
Voilà.
Belle émission. Très belle émission à toi, Vincent. Et pour fêter ça, j'imagine que tu vas faire un petit saut. Tu vas faire un petit saut dans la Méditerranée. Mais oui.
Et au Beaumettes. Allez.
Allez, bonne émission à vous. Le Super Moscato Show tout de suite. Le Super Moscato Show tout de suite. Et c'est le midi revient. Dès lundi à partir de midi avec Estelle Denis, évidemment. Bon week-end à tous.